Nous pourrions sur les doux, hier en héritage, hier dans la petite intro, l'ordre pense aussi, je crois, et pourrait-on dire, c'est peut-être pas le mot juste, bonheur que Jésus, auquel Jésus nous invite. Il ne gagne pas dans le désordre, il n'entre pas dans convenance, c'était un logique, convient qu'il en soit ainsi. Alors, après la première béatitude, justement, il convient d'une certaine de vers cette deuxième étape du bonheur. Je veux dire que la pauvreté, pourquoi? Pourquoi la pauvreté? On aime, je crois fondamentalement c'est ça. Et quitter l'appel d'Abraham, comment aussi l'amour de Joseph est considérablement bousculé. Aussi, on voit bien que même l'amour nous bouscule, nous oblige à quitter. C'est parce que j'aime que je quitte, parce que j'aime que j'entre d'une sorte de désappropriation de moi. Et c'est ce qui est dit, l'homme quittera son père et sa mère, il quitte, nous quittons. Et au fond, je quitte parce que j'aime. Et dans l'appel à une vie religieuse, c'est la même chose. Pas quitter ma famille, quitter mes parents, mes frères, mes sœurs, comme ça. Non, je les quitte parce que j'aime, poursuivre Jésus-Christ. Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté, c'est parce qu'il nous aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il nous aime à la folie, au point qu'il va donner sa vie pour nous. Que Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Comprendre que nous sommes pour lui précieux que sa vie même. Alors, c'est ainsi qu'on passe à la deuxième étape, la douceur. Parce que on goûte les joies de l'amour, comme c'est doux d'aimer et d'être aimé. On quitte pas justement. Mais cette étape est très très importante. Comme c'est bon d'être aimé, comme c'est bon pour le petit bonhomme, le petit enfant dont on parlait, s'il a cette chance-là, et c'est bien souhaitable, de naître dans une famille où il y a de l'amour, où il va être aimé, et donc où il va pouvoir respirer dans cette atmosphère, et lui-même donner de l'amour. Il semble que c'est intéressant pour nous, plus qu'intéressant, appelant, de voir comment les prophètes sont sans cesse en train de rappeler au peuple que dans des fiançailles, au désert, que le peuple est infidèle, justement. Puis, un ou deux passages, commence par le prophète Jérémie. Chapitre 2, voilà ce qu'on lit. « Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert. » Dans elle qui n'était pas ensemencée. Elle était une part sainte pour le Seigneur, prémisse de sa récolte. Puis, un autre passage que je prends aussi, qui est connu que ce passage de Jérémie, c'est dans le prophète Osée, d'elle, parce que c'est comprendre ainsi, lui, le prophète choisi par le Seigneur, qu'il vit, lui, dans sa chair, quelque part, ce que Dieu vit lui-même avec son peuple qui est infidèle, qui est une épouse infidèle. Voilà ce qu'on lit dans Osée. Eh bien, je vais la séduire, cette épouse. Je vais la conduire au désert. Mémoire d'Israël, c'est le désert. On quitte l'Égypte, la terre de l'esclavage, pour aller vers la terre promise, pour se nouer les fiançailles. Je la conduirai au désert. Je parlerai à son cœur. Et on lit un petit peu après, au chapitre 2, verset 16 et suivant. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là. Des champs avec les oiseaux. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et bannirai du pays. Et eux, je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité. Tu connaîtras le Seigneur. Donc, au fond, la deuxième étape, c'est le chemin des béatitudes, on pourrait dire que c'est la joie des fiançailles, la joie du premier amour. Bon, ceux qui s'aiment, d'une certaine manière, ça leur suffit. Et une chose qu'on a remarqué, qui est très belle quelque part, c'est que le livre du Cantique des Cantiques, juste au milieu de la parole de Dieu, c'est vraiment le livre du milieu. Or, dans ce livre, il n'est pas une seule fois question de Dieu. C'est un livre canonique. Qu'est-ce qui se passe dans cette déclaration d'amour réciproque, bien-aimé et de la bien-aimée, qui se suffisent parfaitement à eux-mêmes. Et puis ils se retrouvent, etc. Et ça, c'est d'une certaine manière, c'est au ciel. Mais c'est ce que nous vivons déjà ici-bas. On a des expériences comme ça. Des amours qui comblent, d'une amitié qui peut être aussi très comble. C'est cela. C'est cela. Donc il est bon de réveiller ça en nous. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous rappelle là. Tout à la fin, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, lettre aux églises. Et la première lettre aux églises, à l'église d'Éphèse, voilà ce qu'on lit. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, « Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui marche au milieu des sept candélabres. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser ? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton premier amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, reprends ta conduite première. » Pour venir là, je vous invite à revenir là, dans tout ce que ça peut représenter pour vous que le premier amour. Cadre ultime, c'est notre relation à Dieu. Au début de mon abbatiat, je suis le saint de Pâques, un néophyte. Il avait confessé, alors qu'il était musulman, il est venu assitôt quelques jours avant, pour le soir de Pâques. Bien, il était dans une joie extraordinaire. La joie des commencements, si vous voulez. D'une certaine manière, on est toujours en train de commencer. Avec deux S.E., l'asile, il dit, Grégoire de Nice, que nous allons de commencement en commencement par des commencements tout haut. Et même au ciel, ça sera comme ça. Au ciel, nous serons complètement rassasiés sans que ce rassasiement enlève en nous le désir. On se dilatera toujours plus. Donc, voilà. Il est bon de se revenir des premiers temps. Même le rappelons-nous. Mais la vie de couple n'étant rien d'autre que le... Rien d'autre. Mais c'est ça qui fait la chose extraordinaire. Le sacrement de l'amour du Christ pour son Église. C'est-à-dire les époux peuvent être signes de ce sacrement. Puis la grandeur extraordinaire du mariage. Le montrer. Revenir à notre premier amour. Dans la vie religieuse, on l'employait beaucoup, plutôt autrefois que maintenant. Maintenant, on parle de la consolation, du phrase de conseil. C'est-à-dire que quelque part, on est aveugle. Bien, je m'apporte un souvenir familial. Nos bons amis, elle était très... Alors elle disait en riant, elle disait, eh bien au début du mariage, et au fur et à mesure que les années passent, eh bien on est à marée basse. Et alors on voit les rochers, on voit ces choses-là. Il y a du vrai, bien sûr, mais c'est pareil dans la vie religieuse, vous savez, au début, on dit qu'on a des grâces d'aveugle. C'est parti du temps des fiançailles, c'est-à-dire qu'on est aveugle quelque part. D'une certaine manière, oui, on est aveugle. Et puis on s'aperçoit que finalement, ma communauté, mon époux, mon épouse, si parfaite qu'elle soit, elle n'est pas complètement parfaite. Vous voyez ? Comme ça, hein ? Et au fond, c'est là que c'est bon de redire le premier amour, qui quelque part, d'une certaine manière, est une espèce de naïveté peut-être, mais qui est belle aussi, et on va se réalimenter là pour continuer cette route, parce que on grandit ensemble. Ça purifie aussi notre amour, en plus grand. S'il y a une assise, elle devrait être là. Sûrement parmi vous, il y a Freinet. Bon. Et alors, à un moment, scène où un dialogue avec la reine Anne d'Autriche, et la reine Anne d'Autriche, c'est cette part, et il lui répond davantage, et pas pour lui faire la leçon, mais parce qu'il a bien conscience que ça suffit. Combattre le vieillissement du cœur, vous voyez, et se renouveler aux sources du premier amour, dans cette espèce de fraîcheur qui est toujours là. Ultimement, notre partenaire, qu'on se soit dans une vie religieuse, partenaire de l'Alliance, c'est le Seigneur. Il est toujours fidèle, même si nous sommes... Donc on va aller se ressourcer à cette source vive pour continuer le chemin, prendre les forces qu'il nous faut pour continuer davantage. Et il s'agit de combattre tout ce qui est le dessèchement du cœur. Extérieurement, elles peuvent être très fidèles, mais au fond... Le cœur dur. Une fois, j'ai demandé à un de mes frères, de l'âge, Il avait endurci ou est-ce que je vais jamais poser cette question-là? Imagine, pose-toi cette question-là. Il y a un vieil adage qui circule, je veux dire, dans toutes nos traditions religieuses. Celui qui domine sa colère, est David. Un petit saint quand même. Hein. C'est le roi qui est cher au cœur de Dieu. Parce que justement, il a fait des gros péchés, David. Mais il a du cœur. David, et à cela, il est parmi ces gens qui lui à mort. Il avait le roi Saül. Peu à mort. Depuis que David a combattu Goliath, vous connaissez cette histoire. Donc, tout là, il était paralysé en voyant sortir des rangs des Philistins le géant qui dit il y en a, qui vient provoquer les troupes d'Israël. Hein, s'il y en a un, plutôt qu'on se batte d'armée en contre-armée, voilà, je viens défier les troupes. Et s'il y en a un parmi vous, qu'il vienne contre moi. Personne ne bouge, ils sont tous. Et puis, il y a le jeune David. Alors, le roi lui prête son armure. Et il met son armure, mais il ne peut pas marcher tellement, il est coincé dans l'armure. Donc, et il s'avance avec son petit pagne, mais vous savez qu'il s'exerçait au troupeau. Et donc, avec les pierres du torrent, qu'il avait, les ours, les lions, etc., il va servir de ça pour combattre Goliath. Et donc, il prend une de ses petites pierres et paf, il la décoche sur Goliath. Et Goliath, qui venait à lui, alors il se dit vraiment, il tombe raide mort. C'est la victoire d'Israël. Et du coup, disent que Saül en a-t-il eu des mille, mais David des milliers. Plus à partir de là, il cherche à le tuer. Alors, dans l'histoire, c'est là que je veux en venir. À un moment, il poursuit David, qui est avec ses hommes. Saül le poursuit. Et voilà que dans la campagne, Saül et ses hommes couchent dans une caverne. David, il a son ennemi qui est là. On lui dit, mais tue-le, il est à ta portée. Il va prendre la lance de Saül, et puis il va crier, il va repartir, et il va crier au général en chef des armées de Saül, Abner, tu n'as pas honte, tu n'as pas protégé le roi Saül, etc. Saül va lui dire, mon fils David, etc. C'est touchant, lisez, c'est absolument touchant ça. Et que, au fond, la véritable ascèse, c'est de devenir, par exemple, je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est l'ascèse. Ce sont les qualités de Dieu même, les vertus, les dons de l'Esprit Saint. D'infinie douceur, qui n'est pas être doux, ce n'est pas être mou, comme on dit, non. En fait, c'est une force considérable. Il avait dit, on entre dans le cycle de la violence. Qui aujourd'hui, dans notre monde, va oser faire ça? Regardez comment dans ces hommes, il y a beaucoup de la tendresse. Et il nous invite à développer en nous cette tendresse. Dans le poète, tendresse, c'était pas un poète. Que les poètes, ils soient habités par plus qu'eux-mêmes, quelque part, tous les arts. Il écrit cela. Tendresse est une douceur de nature divine, prépare un coup d'extérieur de nature divine, au bout pour nous dire son amour. Et aussi, comment inciter les disciples, Jésus ressuscité, où est-ce qu'il leur donne rendez-vous? En Galilée. Et la Galilée, c'est le moment du premier amour, c'est là que se sont faites toutes les rencontres. Il apparaît aux femmes, c'est dans l'évangile de Matthieu, dire, allez leur dire, d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Bon, la Galilée, il faut venir dans la Galilée de notre cœur. Là. Voir là pour continuer notre route. C'est toujours le premier jour de notre amour. Nous nous découvrons aujourd'hui pour la première fois. Alors, là, je passe à la troisième béatitude. Dans les larmes. C'est un bien au fond. D'être aimé, de recevoir de l'amour et de donner de l'amour, durer dans l'amour, car toujours nous sommes des signes de l'alliance nouvelle et éternelle, une fois pour toutes. Mais c'est pas facile. Et on entre dans le temps de l'épreuve, c'est le temps de la faire l'expérience du Christ au service de communauté. Parce qu'il y a la communauté quand on a été cuisinier. Eh bien, c'était toujours le. Un moment pour échanger avec eux sur bien d'autres choses. Je me souviens de l'un d'eux, pas encore, et je me souviens de son. Il m'a lâché un jour comme ça. On a l'impression que les chrétiens sont des gens qui ont besoin d'être consolés. Et puis, il m'est venu quasi spontanément, mais je lui ai dit, vous avez parfaitement raison. S'ils ne la font pas ici-bas, il faudra la faire après. Parce qu'il faudra pousser un cri, comme le petit enfant qui naît. Le cri, c'est le signe qu'on vit et qu'on veut vivre. C'est pourquoi la plupart de nos prières, si vous le remarquez, elles commencent par dire « Dieu, viens à mon aide !»« Seigneur, hâte-toi de nous secourir !» Deus in adiutorium torium meum in tandem. Alors on chante ça si calmement. Qu'on oublie que c'est un cri. Ah oui. Vous savez les psaumes. Alors, jamais dire comme ça de nous-mêmes. On apostrophe le Seigneur. Seigneur, sors de ton silence. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. On n'oserait parler comme ça à Dieu? Jamais. Alors en plus quand on dit sors de ton silence. Vous croyez que ça va le réveiller? On ne fait pas attention à la... C'est l'expérience du cri qu'on va faire à la troisième. C'est le temps de la maturation. On ne peut pas mûrir sans... Ma mère m'a dit, quand j'avais 15 ou 16 ans, « Olivier, ce qui te manque... » Et ça ne m'a pas révolté. Je me disais, pas du tout, mais il me disait, « Ça te manque. » Vous voyez, quand tout nous réussit, allez comprendre. Bien, bien dit, c'est la mort du petit caïd. Ça se fait par... C'est l'épreuve, hein. C'est le temps où le cœur de pierre devient un cœur de chair. Le temps où le cœur de pierre devient un cœur libre. Quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. De son cœur couleront des fleuves. Comme tu es dur, évangélisez notre cœur. Et je crois, voyez, que cette étape, comme les autres d'ailleurs, hein, on passe par là, l'amour véritable, mûrir, celle. Mais c'est pareil, le pape François en parle. Moi, il y avait dans les vieux sacramentaires du baptême des larmes. Aussi. C'est justement le moment où le cœur de pierre devient un cœur de chair. Et très cher aux moines, les larmes. C'est les larmes à la fois de componction, comme on dit, voyez. Et le cœur est transpercé par l'amour de Dieu. Et du coup, à la fois, on comprend qu'on n'est rien qu'un pauvre pécheur, mais en même temps, on est comblé par l'amour. Et du coup, on ne peut pas faire autrement que pleurer. Vous avez des expériences comme celles bandits qui se convertissent et qui font l'expérience dans leur prison. L'expérience de... On a eu dans un de ceux-là, bandit, un tueur, qui ont les larmes en prison. Écoute, Seigneur, si tu existes, moi je te donne rendez-vous à 3h du matin. Je sais pas. Seigneur, il fait. Et voilà. Et... Il a été retourné. Donc il s'est mis à pleurer. Parce que c'est au plein de l'amour, c'est quelque part. Ça déborde, quoi. Et donc, soit de componction profonde, de purification, mais aussi de bonheur impossible. On est là. Et c'est aussi le. Un de l'évangile, le pharisien, il est dans le formalisme. Vraiment un modèle. Un modèle. Est-ce que la parabole nous dit. Alors, exemple aussi dans la parole de Dieu, de. Pas n'importe lesquels. Dire dans les évangiles, c'est vraiment le petit caïd, sympathique comme tout. Mais, il est toujours là pour prendre la parole. Chose, hein? Non? Jamais. Vers Satan. Quoi, il a été, il s'est ouvert pour dire, à la lumière du Père, pour dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et quelques instants après, quand Jésus va commencer à annoncer, inconcevable. Nous, hein, bon. Tous pourront t'abandonner, moi, non. Et hein, que celui dont il lui jette la première pierre. Il est dans l'élan de l'amour, mais il n'a pas la force, quelque part. L'accent, quand même, de Galilée. Croisant le regard de Jésus, toujours, et le nom de la troisième, c'est pour qu'il devienne Saint-Pierre, ça. Et qu'il soit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la pierre sur laquelle Jésus, c'est celle qui a fait l'expérience à travers l'épreuve, l'échec, la trahison, le reniement. Tant qu'on n'est pas passé par là, au fond, on a pris conscience qu'on était rien qu'un pauvre publicain. Les pierres sont partis à la pêche, ils ont au poisson, va nous dire Saint Jean, comme il peut pour ramener le filet. Jean a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Là, j'ajoute un peu. Il y a le repas, et après le repas, quoi? C'est la question même de Dieu. Qui d'entre nous aurait dit une chose pareille? Le Seigneur ne lui dit pas « Pourquoi t'as fait le malin ?» Nous, on fait comme ça. Je l'avais bien dit. « Pourquoi t'as fait le malin ?» Quelque chose qui fait beaucoup plus mal, d'une certaine manière. Comment? Alors, eh bien, je crois que nous, on passe, on fait... Il y en a deux, moi, que je t'en vis plus ou moins. Ah, c'est l'épreuve de la déception. L'autre, on est déçu par sa communauté. Magnifique soit-elle, ben c'est pas encore tout à fait le ciel. On est déçu dans un coup, parce que l'autre, si magnifique soit-il ou soit-elle, pour le ciel tout à fait non plus. La traversée, mais en allant à son premier amour, y abreuver pour aller plus loin ensemble, et qu'on reçoit la force de se pardonner. Déception, qui, eh bien, Jérôme Vignon, mais parlé, roulé par Hitler, le peuple entier qui est roulé par Hitler. Une autre épreuve qui n'est pas très loin, elle se gentiment sur la touche. On ne le dit pas, mais on le vit comme ça. Et ça aussi, ça peut être extrêmement important. Déontologie de l'entreprise. Certes, Jésus aura pu vivre l'épreuve de la déception, mais pas de la plus grave de toutes les déceptions. Dieu ne peut pas être déçu, désespéré de la misère. Donc, Jésus va vivre l'épreuve du remords. À mort, Barabbas. Oh, sur la touche. Ce n'est pas rare que des personnes qui ont une particulière, même dans la parole de Dieu, vont passer par ce genre de... Regardez la magnifique histoire de Joseph. Par-dessus la tête, parce que c'était le fils bien-aimé de son père, Jacob. Et évidemment, je comprends les frères, vous comprenez? Il raconte ses rêves et il raconte qu'il voit toutes les ternes devant lui, etc. Vous imaginez ça dans une famille, les autres en ont par-dessus la tête. Et plutôt que de le tuer, ils le vendent, là, à une clé. Donc, ils vont se débarrasser. Il va faire, avant de devenir... une figure, c'est il va à la touche. Moïse, c'est pareil. Il a vu déjà un Hébreu qui se battait avec un Égyptien. Alors, il tue l'Égyptien et libère l'Hébreu. Et le lendemain, il voit deux Hébreux qui se battent ensemble et cherche à les séparer. Mais dis donc, qui t'a érigé juge entre nous? Puis l'Égyptien, donc, dans sa fuite, être les troupeaux de son beau-père, Jéthro, au Sinaï, il va se trouver devant... On pourrait vous dire, notre père Saint-Benoît, des moines d'un monastère voisin, a tellement insisté qu'il a cédé, et finalement, il cherche à l'empoisonner. Il cherche à l'empoisonner. Oui, oui, tout à fait. Et alors, Benoît, enfin, c'est ce que dit Saint-Benoît, de la croix, le verre se casse. J'avais bien dit qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble. Donc, je vous laisse et je retourne dans ma solitude. Bienfait de la deuxième béatitude pour expérimenter. Et aussi bienfait de la troisième béatitude qui va nous entrer comme ça. Le plus difficile à faire, c'est d'apprendre à aimer. Quand je parle du monastère, je dis pour moi, ne vous étonnez pas si vous voyez qu'il y a des moines qui ne sont pas parfaits. Puisqu'on est à l'école. On n'est pas parfaits. Alors je dis quelquefois pour blaguer, mais ceux qui sont parfaits, ils n'ont pas besoin de venir au monastère. Les gens qui sont très imparfaits découvrent leur imperfection, mais qui veulent se convertir. Et que... Voulez enfin ce sentiment va nous agrandir le cœur, adoucir le cœur justement. Et lui, à la mort du petit Caïd, qui dit toujours moi, le plus beau, le plus grand, le plus fort. Laisse là un texte dont André Louf, a été le. Bon, je crois que ça explique. Bon, il revient toujours à son thème fondamental. Et appelle ça le point d'épuisement. On a tout fait, on fait tout pour ça. Donc on va crier. Je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades.
D'armes, oui. Est-ce que vous...
Parce que la messe était top.
Donc vous nous direz.
Je vous dirai.
On vous remercie beaucoup. Alors. Texte.
Merci. On vient de publier notre livre.
Là,
vous lui donnez les précédents.
Oui, j'ai eu le précédent. Je vous donne le dernier qui vient de sortir.
Merci beaucoup. Aussi celui de...
On va laisser la porte ouverte. On aura besoin de quelqu'un demain matin, on aura besoin de quelqu'un pour prendre en charge la quatrième exposé, pas tous en même temps.
C'est ça.
Oui, c'est la question.
Oui.
Numéro 2, oui. On y va.
La trace qu'on est à peu près stable, mais on a dans la Bible du roi Saül, qui sont quand même pas mal magnifiques. Donc, dans ce cas-là, pour le christianisme, on commence à être au moine parce qu'on devait être marqué. Ça y est, jusqu'à 250 ans, parce que c'est suffisamment embêté pour que ça soit la question. Mais petit à petit, ça devient une marque. Ça devient un bon moyen d'avoir un bon poste pour son intérêt. Donc il y a des chrétiens qui vont dire oh, ça c'est pas du tout ça. Et le premier, c'est se mettre à l'extérieur des villes. À un moment, la civilisation, c'est des villes. Donc quand on se met à l'extérieur, c'est qu'on accepte d'être à l'extérieur du lieu, de jouer différemment des autres. L'exemple type, c'est Antoine. Antoine du désert, alors on le connaît surtout pour les tentations. C'est lui qui va pas d'autre, il va quitter le village, il va aller peut-être dans le désert. Alors vous savez, c'est un exemple avec une tentation, il a eu le temps de faire un petit. Alors, d'abord il a eu 25 ans de vie solitaire, puis d'après il y a des gens qui viennent sur le coup. Et pendant sa vie, il y a un autre précurseur, qui s'appelle Pacône, de 450 ans. Pacône, c'est un païen, il est couvert par des chrétiens, parce qu'il s'occupe des prisonniers. Et il reçoit comme appel du Seigneur, qui s'appelle à ce qu'il soit la porte d'accueil de beaucoup. Il a fait de la première monastère, le monastère va grandir, moins de 900. Et puis 900, et puis il y a un moment où il y a 240 places. Donc ils font un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième monastère, et un monastère fini. C'est la même génération, on a Antoine, qui est toujours un spécialiste de vie hérémétique. On va dire que j'aurais une famille de Saint-Bruno, c'est un proche. D'un autre côté, une petite petite, on va trouver des petits villages, mais ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui vont faire les familles de vie avant de manger, tous les jours, on va retrouver tout le monde du sport. À arriver, il y a tout un modèle qui soit ajouté à peu partout, jusqu'à ce moment. En fait, il y a plusieurs qualités. La première qualité, c'est des rations. Il fait la vie monastique pour des athlètes, des consommateurs. C'est un véritable progrès par rapport à l'église. Est-ce que vous pensez que dans le désert des îles, un des langues, c'était de voir le moins possible, vous dites, ok, tout le monde n'y arrivait pas. Donc c'est tout le monde, et un des points de la règle, on essaiera de tout faire pour que les plus forts trouvent encore quelque chose à faire, et que les plus faibles vont se décourager pas. C'est donc une bonne manière de vivre. Et il y a une deuxième qualité, c'est qu'à peine une manche, son émission a été coupée et détruite. On vient de dire de qualité, c'est que ces moines se sont repliés à Rome. Ils ont un plan, ben, je viens de voir le grand, il a été moine, bénédictin, qui a vu la règle de sa monarchie. Il y a eu beaucoup de saints très bien dans la monarchie, mais ils ont disparu. Il a eu très fort plus décidé. Et qu'il était un homme, puisque vous savez que Charlemagne, à un moment, vient se faire couronner encore à Rome. Et qu'est-ce qu'il ramène dans ses bagages? La règle de Saint-Benoît. Il réalise qu'il a un empire fait de briques et de brocs. Son idée, c'est faire l'union. Et une manière de faire l'union, c'est qu'il va imposer à tous les monastères de son empire de vivre la règle de Saint-Benoît. D'autant qu'il fait faire par l'adaptation de la règle qui va la rendre vivable pour sa période. Mais on va avoir droit à la visite des Normands. Vous savez, les Normands, les gens du Nord, pour ceux qui ont connu la liturgie avant Vatican II, vous vous souvenez peut-être qu'aux rogations, une guerre c'était Liberanos a Normans. Après, on se souvenait encore que la visite des Normands, c'était pas un cadeau. Et alors, comme ils n'étaient pas idiots, quitte à aller piller, au lieu d'aller piller des gens qui avaient des armes et qui n'étaient peut-être pas riches, ils allaient piller les monastères, au moins ils savaient où ils étaient. Vraie catastrophe. Et les monastères ont périclité d'une manière absolument terrible, 9e et 10e siècle, à cause de ça. On ne peut plus s'organiser. Et comme le Seigneur est bon, il a inventé Cluny. Cluny arrive. Alors Cluny arrive avec une intuition forte, c'est avancer dans ce chemin-là. Il y a 1200 maisons qui dépendent de Cluny. Hein. Il y a Bill Gates qui a fait mieux, mais je veux dire, à cette époque-là, 1200 monastères, c'est quand même juste considérable. Le problème, c'est qu'ils y sont allés tellement fort du côté de la liturgie. Ils arrivaient à avoir entre 10 et 12 heures de prière par jour. Plein de prières de 10 heures par jour ou 12 heures par jour, c'est très bien. Simplement, vous avez le temps de faire d'autres. Dormez, vous priez. Or, la règle de Saint-Benoît, il y a trois piliers. La prière communautaire, la prière personnelle autour de la Lectio Divina, donc la lecture méditative de la Bible, et Emmanuel. Emmanuel, il est très important parce que Emmanuel, c'est ce qui fait que quelqu'un qui est noble, vous avez perdu votre nobilité. Alors, il n'y a plus de vos mains, vous restez noble. Il y a une vraie tentation dans la vie monastique, surtout dans la petite et la moyenne nobilité. Oh, ben on n'a plus vraiment le temps, on a beaucoup de liturgie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Il va développer ça d'une manière considérable au point qu'il va vendre ses psaumes. Et quand on fait ça, et ben, de très belles messes, beaucoup de messes, parce que ça rapporte beaucoup, donc on construit la plus grande église de la chrétienté. Toi, c'est très bien, et c'est comme ça coûte très cher de construire une très grande église. On est donc on rentre dans un cycle infernal. Le 11e siècle va être un siècle de contestation de Cluny, oui, au début du demi-peuple. On va faire les dalles. Deux qui s'étaient perdus. Voilà. Alors, côté Van Manuel, ça va être un de ses points forts de dire il faut revenir à l'équilibre. Et ouais, sinon vous avancez. C'est pas un niveau très brillant. Donc c'est normal, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le creusement, dans les vallées, dans les trous, etc. Et c'est un canal qui fait 13 km de long, 1 mètre de... Alors servir pour boire certainement, mais beaucoup de plus difficile pour partir en profondeur. Quand vous partez en profondeur, il faut du métal. Et pour avoir du métal, il faut pouvoir l'assumer. Non seulement le feu, mais aussi le combat. Et comme les moines ne font pas que chaud parce qu'ils vont si le pain fait le boulot, bah, ça marche mieux pour tout le monde.
Pas mal de techniques agricoles.
Pourquoi ? Parce que les premiers moines, c'est essentiellement des chevaliers. Un chevalier, c'est un gars qui a entre 20 et 25 ans. Il peut avoir pas mal d'ados qui mangent, c'est effrayant. Donc vous avez intérêt à développer vos terres pour qu'elles produisent suffisamment. C'est juste basiquement nécessaire. Si on veut se développer, on en a besoin. Alors, le point de la place, c'est une place quasiment toute de terre. Alors, vous avez autour, vous avez des arbres, des bonsaïs, non pas égyptiens. On peut vivre à l'écart, on va vivre dans des bêtes sauvages. Et c'est bien le but du jeu,
de moines, monos, et aussi, c'est les gens qu'on a vus, les arbres, là, ils vont bien nous drainer tout ça, et ça finira par être une belle terre. On voit des moines en blanc, à toutes les couleurs, bah, je suis à laine. Mais bon, alors c'est relativement plus blanc que quand on est habillé en noir, comme un bénédicte. Mais si on peut redéfinir eux-mêmes, en particulier sur des points, et un bénédictin, on peut se dire, la grosse question, c'est qu'ils ont la place, n'est-ce pas ? La même chose pour la réforme. Ça, ça ne prend sens que...
Donc ça, c'est 1098, la finale pour cette série, donc on va sauter directement dans le
feu. 1098, c'est la fondation Issen. Un an après la fondation, est rappelé par le pape dans sa communauté de fondation, ça dépend de l'évêque local. Ça va pas, qui est-ce qui va se mettre en place une législation appelée la charte de charité. Patrice, parce qu'elle précise, c'est quatre maisons filles, donc c'est pas, on va pas nommer les abbés, on refuse de nommer l'abbé de toutes les communautés, et le devoir de se relier ces communautés-là, c'est un systéralisme assez poussé, pas clair, parce que ça permet la grâce d'avoir un ovni qui est au moins 24 heures, où ils sont dit, on est assez fou pour, en étant à Paris, ils ont accepté. La même année, et puis l'année suivante, seul à l'ère du temps. Alors la pauvreté est relative, pas n'importe quelle famille, là on a une vraie richesse, une vraie pauvreté, ça veut dire on va simplifier. Voilà, c'est un petit peu le cas, ça marche pas mal, et on va avoir donc avec Ben, qui devient Bernard Thibault quand il est novice, payé pour fonder Clairvaux. Il devait quitter le travail et pour franchement un tourdoué pour arriver à obtenir un résultat. Un abbé pour en faire des évêques. On vient de dire c'est très bien ça de l'influence. Oui, mais ça veut dire que l'abbé suivant, bah, il sera un. Et ça empêche pas que tout le monde se trouve au sommet de sa gloire. Le panneau est très résumé, il dit, en fait ça veut dire qu'il y a 500 personnes, ça préexistait à Citeaux, et Citeaux va se débrouiller pour en faire 400, c'est quand même pas mal. Ça permet aussi de recruter des gens. Derrière, on a 2 à 3 heures de vélo, le problème c'est que le dernier est mort il y a 2 ans. Vous avez autour des petits médaillons qui sont très jolis, révolutionnaires, vraiment très bien. Et là en fait c'est une espèce de discours, à la fois ça va être la force de Citeaux, et à la fois ça va être un lieu important, c'est... Donc tout va très bien, il y a beaucoup de monde, on fabrique la troisième église de la chrétienté. La première c'est Cluny, la deuxième c'est Serre de Rome médiévale, la troisième c'est Citeaux. Et en fait on est en train d'entrer dans le jeu de Cluny.
Alors, les choses vont bien, c'est pour l'apporter. Nous avons la chance de ne pas faire partie de la Bourgogne. La Bourgogne est vraiment là, indépendante. Et la Bourgogne c'est comme le Koweït. Ou comme le Qatar aujourd'hui. Un tout petit état coincé entre des géants. Et donc, il va aider à faire la bienveillance. Alors à l'époque, elle a sorti des équipes de foot, on laisse vivre les moines, on les laisse se développer, et c'est eux qui vont répandre la culture bourguignonne dans tout le monde. Et il y a un malheur qui arrive. Alors le premier malheur, désolé pour l'heure, c'est que la France s'est fait la guerre à cette femme. Je vais d'ailleurs faire de vous un ordre royal. Ne vous dépendez pas d'ordre. Aux gens de la France traversent la guerre entre eux. C'est pas grave, là, de chaque côté. C'est seulement entre la Pentecôte et à manger un grain de blé. Et la France est un des pays du Grand Nord. Donc c'est pas un cadeau. Et puis, il y a un troisième ennui. Et si toi, tu as eu la bonne idée, et les armées, c'est très triste, puisqu'il était plus ça pour tuer des hommes. Mais comme c'était des bruitaux, ils ont profité de probablement d'eux. Bon, ça fait partie d'une petite cata de l'existence. Mais il y a une autre cata qui est plus grave.
Ça, c'est à laquelle je reste.
Oh, c'est plus du rêve. Oh, c'est plus du rêve. trouvé dit les abbés de toute l'Europe se réunissaient à Poitiers. Et quand je dis toute l'Europe, la fondation, on a eu lorsque Otto de Habsbourg, le gouvernement européen, s'appelle Habsbourg, donc sa famille d'origine, c'est exactement ça, ça veut dire c'est génial. Il a trouvé une manière de copier une fois et après toutes les copies sont pareilles. Or, il faut savoir que si tout c'est un an pour les faire, vous pouvez payer un plombier en 3 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous invente un système qui va permettre de faire toujours les 2/3 du travail? Et puis très vite, on va trouver des systèmes. Reproduire très vite, comme le support, baisser énormément les coûts. Faire que les mentalités changent. L'abbé de Citeaux, quand il apprend, on a un imprimeur. Donc la première fondation de... Et la France a un frais chaud, c'est pas de la politique actuelle, mais c'est un trait caractéristique qui est dur. Désespérément. Mais désespérément. Philippe Rodel se fait gauler parce qu'il fait... Il rajoute un peu de plomb. Et comme les gens sont... Et depuis, on n'a toujours jamais su équilibrer. Il n'est pas armé, et donc on peut lui demander... Au pire, il va murmurer. Et encore, la règle de Saint-Benoît, elle n'aime pas le murmure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'État n'ayant pas de sous, qu'on va faire, on va le nommer abbé d'une abbaye. On ne demande pas d'y habiter, il faut qu'il travaille. Et il va en toucher les bénéfices. C'est un monastère, c'est pas nécessairement le lieu le plus intelligent. Vous avez encore que fait un abbé Grichou. Interdit à un monastère d'accueillir trop de monde, étrangler gentiment. Alors qu'est-ce que ça va donner pour nous? Ça va plus tomber. Pas parce qu'à force de les étrangler, il y a des systèmes comme ça politiques. Les grands monastères, ils avaient droit au mieux à 2 nouvelles. C'est que le génie humain étant ce qu'il est. Donc, au moins dans un de la zone, et à hop, vous laissez couler. T'arrives, comme ils sont pas idiots, et pour la même barrique, leur petit reportage. Dans une lavande. Et évidemment, quand on commence à avoir des sports, il y a les guerres de religion. Oh, ils venaient pas pour. Parce qu'on avait des amis, ils s'appelaient cadrement de fenêtres, parce qu'ils avaient tout brûlé. Dans l'abbé de Citeaux à tous les... Au passage, ils avaient réussi à mettre le... Ils faisaient partie des heures monastiques. Bon, mais par contre, ça a incendié le clos vous au vendredi. Une robe par rapport à la haute couture. Ils donnent le même nom. Mais en fait, un jour, vous faisiez un mariage... Pardon ? Les guerres supposées de religion, les guerres nationales, accrochées à un label très pratique qui s'appelle religion, au fait que, surtout après le concile de Trente, par des bonnes sœurs à la campagne, les bonnes sœurs, rentrez en ville. Même pour nous, nos sœurs, vous allez mettre derrière des grosses grilles. Vous êtes allé dans un carmel classique, vous mettez toutes les sœurs, et on pas bouger. Que les gens de l'extérieur gardent pour venir les violer. Et donc, avec un petit peu de chance, la police du coin a une chance d'arriver pour sauver ses pauvres sœurs. Mais on les installe en ville. Et vous voyez une ville comme Beaune qui a très bête de la famille. Vous bien aller dans votre vie une seule fois dans un carmel. Vous n'avez qu'un sacristain, il aura bien du mal à faire un carton. Mais alors la troisième sacristine, vous dites, bon, ils avaient sûrement de l'imagination. Vous ne pouvez pas être débordé quand même. Vous devez aller. Heureusement, parce que béatifié. Ils n'ont pas vécu longtemps, c'est de le dire, mais les béatifiés après 1815, c'est que l'homme n'a pas eu envie, même qui faisait mourir bien jeune, moyenne de survie en 1905. Ok, la tuberculose tape pas mal dans les environs. La tuberculose, il y a des conditions, et c'est pour ça que refondé en 1892, d'ailleurs, n'a jamais été libéré. Sauf
c'est ce qu'on veut dire. Juste entendre, mais des messages comme ça, non dit, il y a un moment où ça crie très très fort.
Alors l'avantage d'avoir la commande, d'avoir des billets, c'est qu'en fait on redevient pauvre. Et redevenir pauvre, ça veut dire que il va y avoir des tentatives de réforme. La réforme la plus connue est celle de l'abbé de Rancé, l'abbé de La Trappe en Normandie, qui va donner le nom à un ordre qui s'appelle les Trappistes. Ou pour être plus précis, les Cisterciens Trappistes, et pour être tout à fait romain, l'ordre cistercien de la stricte observance. Donc, cet ordre-là va naître au moment de la révolution. Pour le coup, il n'avait peut-être pas envie d'une austérité. Il voit le vent venir et il s'est quand même parti jusqu'à Moscou. Et là, il a commencé à avoir raison. Là, je les connaissais comme le moine. Bah. Il y a aussi des l'évêque et des l'archevêque. Hein. Voilà, mais. Donc, j'en tire quand même 1104 ans pour revenir. Vous savez tous les bâtiments que vous avez eu de. Tout à fait surprenant. Si vous voulez voir sitôt, allez à Dijon. Alors, les bouquins imprimés, on s'en fiche. Ouais, c'est ça.
Alors, c'est de 5 ans, on a jeté la fromagerie. Dans les normes, il faut dire depuis quand votre fromagerie est ouverte.
Donc je suis allé voir les communs et j'ai dit, on me pose une question un peu gentille, je dis que vous avez 5 ans dans votre fromagerie, mais on l'a ouverte quand. Et il me dit, oh, tu sais, vous avez pas de frigo.
Allez, on va dire que le jour même, ils vont pas ouvert le fromage, mais le lendemain de la fromagerie, je prends la droite. Donc il marque l'hyperthéralisé. J'ai marqué l'hyperthéralisé, et non seulement il n'a pas corrigé en disant qu'il voulait, mais nous avons le vétérinaire le plus fier de France, parce que nos réunions vétérinaires, c'est sûr que c'est un petit peu, ils disent, oh, moi j'ai une fromagerie, j'ai une fromagerie, j'ai une mieux. Et effectivement, c'est un peu difficile.
Donc après, ils ont reconstruit une ferme qui tourne une petite communauté. Le pape commence à en avoir marre. Les trappistes, c'est des gens un peu têtus qui aiment bien leurs habitudes. Il y a trois autres trappistes. Les uns mangent à midi moins quart, à midi et quart. Et à l'époque, c'est très très grave. Rigoler, mais en fait, regarder les problèmes que vous avez dans vos familles, bon, c'est encore plus basique que ça. C'est ce que vous avez fait dans un bon machin pour les mettre dans la machine à laver. Et alors, avec la belle famille, c'est bien. Bon. Alors, il dit, par homme, vous allez fusionner en un seul homme. Vous ne pouvez pas dépendre l'une de l'autre. Le cadeau, et c'est une complication. Le cadeau, c'est que, au repos, la complication est en 1882. Que la mine de diable en fait existait et c'était pas dévié pour sauvegarder les morceaux de temps qui ne servent plus à rien. Mais voilà, mais c'est simplement des pauvres. Et donc ils étaient bien obligés, au point que ceux qui sont partis en Afrique, on est riches, on peut manger à notre faim. Bon, c'est ça. Mais comme mes frères qui sont rentrés à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas assez mangé, et que quand on allait planter.
C'est arrivé à Bavard de Clairvaux,
mais on croyait que les trappistes c'était la seule manière. Parmi les cisterciens, il y avait les trappistes et puis la deuxième division. Donc il y avait 8 corps. Et pour préparer 1998, et pas plus de 900 à la fois, hein. Il y a 900 moines. Ils sont très attentifs en cours d'implantation aux États-Unis. Il y a toutes les couleurs, vous savez, dégage. De l'ordre, il n'y a absolument personne.
C'est un souvenir.
Une des maladies spirituelles les plus graves chez les moines, c'est la maladie de la pierre. La maladie de la pierre, c'est une maladie grave, toujours envie de construire. Alors, vous voyez, c'est un bâtiment qui est large. Et vous vous dites, mais ils étaient fous de construire un truc aussi grand. La bienheureuse révolution, c'est rare que je l'appelle comme ça, mais là, vraiment, c'est la bienheureuse révolution, c'est 8 fois plus grand. 400 de cloître. Juste imaginez l'armée de frères qu'il faut pour garder sa propre. Je ne parle même pas de l'utiliser, juste de le garder fort. Et c'est vrai qu'on accueillait ici les chapitres généraux. Donc, on avait une fois par an environ 4 à 500 têtes. C'était un village, c'était pas. Mais bon, Bélix explique aussi pourquoi les gens étaient révoltés contre les moines. Parce que, vous restez votre richesse d'une manière comme ça, il y a des gens que ça énerve un peu.
Juste avant la révolution, il a été inauguré par les moines en 1898. Il n'y avait pas de rôder le bâtiment.
C'est un
truc. En mettant attentif, si vous pouvez vous passer par le fond, vous allez voir que le lieu saint par excellence de l'abbaye. C'est la première chapelle et nous allons être proches bientôt dedans. Choisir le saint pour le monde, parce que vous mettez des stalles, ça prend de la place. Parce que Bernard arrive avec ses 30 gars, il doit les conserver. Là, il faut fonder. Il faut fonder pour nourrir tout ce petit monde-là. Il faut fonder parce qu'il n'y a pas de place en église. Donc, il fonde pour des raisons très bassement concrètes. Bernard s'est engagé pour l'aide. C'est pour ça qu'on s'est fatigué à mettre quelques pierres pour signaler l'endroit. Mais c'était un bâtiment en pierre, donc il est parti.
Wow.
Alors, c'était un centre de lecture. L'église est juste à côté. Et donc, une des habitudes bénédictines, c'est que, avant qu'on lit, on a un temps de lecture. Si vous êtes ici, vous devez sentir qu'en étant plutôt de ce côté-ci, vous êtes assez peu touché par le vent, mais au cœur de l'été, vous n'avez pas non plus très chaud. Autrement dit, ils n'avaient pas la clim, mais ils faisaient de telle manière que ça ressemblait franchement à la clim. C'est très beau, et en même temps, c'est une simplicité monotone, puisque c'est simplement deux types de pierres différentes. Ils ont mis deux types de pierres ensemble, et ça donne quelque chose qui est beau. Il n'y a rien, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de... C'est juste l'architecture qui est belle. Mais ça dit quelque chose de la spiritualité cistercienne. On essaie de faire du beau avec du simple. On a décidé d'être simple, mais on n'a pas renoncé au beau pour autant. Particulièrement au beau littéraire. Donc oui, la manière dont Saint Bernard travaillait ses textes et ses sermons, qu'il les travaillait avant. Une fois qu'il les avait lus, il les retenait, il les corrigeait, il faisait des choses, etc. Et derrière, il le faisait lire à d'autres, il le recorrigeait encore. Ça faisait partie de la bonne éducation des peuples. Ils n'avaient pas renoncé à la bonne éducation. Alors, nous, il y a ici le premier métier pour les deux ans et minutes. C'est les deux que vous avez oui, c'est des portes solides. Alors, c'est à la fois très simple, mais c'est très intelligent. La porte souple. La seule partie chauffée, c'est l'arrière de la cuisine. La cuisine était chauffée, et donc ils avaient fait une pièce qui était à l'arrière, qui bénéficiait de la chaleur, mais avec un cours de garde. Ça veut dire celui qui revenait des champs, il avait droit à 30 minutes, puis après c'était dehors, au sûr. Parce que c'était pas un lieu où on parlait, c'est pas un lieu où on lisait, c'était un lieu où on se réchauffait. Et pourquoi croyez-vous qu'on avait des manches longues comme ça? C'est pas juste pour le plaisir. Ça a deux usages. Le premier, c'est que vous avez beaucoup plus chaud quand vous avez des manches longues. Moi, en tout cas, moins froid. Certains de mes frères me disent, à l'église, on cassait la glace le matin. Les manches longues, elles étaient très utiles. Et ça a une autre utilité, ça c'est plutôt pour des frères comme moi qui sont un peu speed et qui courent partout. C'est qu'au moment où vous avez des manches comme ça, vous pouvez rien faire. Parce que c'est où vous dites, ah, si je peux rien faire, c'est peut-être que je suis appelé à faire autre chose. Et donc, vous passez de la quatrième à la seconde et on réduit la rigolerie. Donc ça aussi un visage très vastement spirituel.
Je vais partir de la dernière question que je suis
juste en face.
Alors, il y avait une carte de l'opposition.
Ils avaient un certain point de la tête.
Alors, je vais vous trouver la balle qui a vous poser. Mais c'est un bâtiment qui a été en train de se faire. Mais il y a été déposé. La peau a été déposée sur un certain moment. Mais je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner un cahier pour les chefs. Quand vous avez un bâtiment génial. Alors, c'est pas parce que c'est un bâtiment à un étage, parce que ça, normalement, ça s'est assez bien fait. Je sais pas. Pour l'autre, le Parlement de tous les abbés. L'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous. Intelligent, c'est tel noviciat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pacte avec ceux qui choisissent pour leur qualité de diriger la communauté. Donc ils avaient un bel exemple. Mais les abbés ont fait vivre la règle. Et donc ils se disaient, oups, si on fait des règlements un peu idiots, ça va mal se passer. Et imaginez simplement qu'en France, vous prenez l'Assemblée nationale et vous la mettez au-dessus de l'université. Tous les trois jours, à une loi tous les trois mois. Juste en se disant, oups, ils vont encore nous faire une révolution, les moines. Il ne faut pas simplement les écraser. Insister, tourner, retourner. Et avant, il faut dire, tu sais, il y a... Très gentiment et très doucement, il finira par vous dire. Par contre, à trois mois, vous allez lui dire, hé, c'est fini, oui. Et puis, d'un autre côté, on peut éveiller un moine qui pourrait s'endormir tranquille. Donc voilà, ça aide les uns et les autres.
Thank you.
Alors à l'époque, on ne mettait pas avec ce cement, on ne mettait pas la viande. Au bout de la viande, il fallait les mettre à l'infirmerie. Donc on faisait une grande. Ou que ça se fait juste après le 14 septembre, les moines ils sont retournés en Norvège, les bras pendant un an. Un abbé, il était fait pour être dans son monastère, il est parfait pour en faire chuter. Il est dopé pour qu'il ait suffisamment de chance pour avoir intelligence à faire les choses comme ça. On reste chez la bibliothèque en haut, ça nous fera une bonne occasion de montrer les choses. Donc ça c'était la plus grande infirmerie.
Ah oui, tu dis.
Là le bâtiment à la place
de l'Assemblée nationale. Quand j'ai marqué au sol, c'est en fait des passages, c'était des passages couverts.
Il se trouve qu'en Bourgogne, il arrive qu'il pleuve. De temps en temps. Et que les moines restés au même endroit ont décidé qu'ils n'étaient pas nécessaires de se faire. Alors on a une capuche intégrée, mais quand il pleut beaucoup ou quand il y a la neige, c'est quand même sympa pour son couvert. Donc j'ai des descendements de couverture en bois. Mais le bois ne fait absolument strictement rien, puisque nous avions pas mal de forêts autour. On est toujours la plus grande forêt du département. Et les moines étant légèrement flémasses, c'était dit comment faire que la forêt rapporte un maximum avec un minimum de travail. Et évidemment, ils avaient trouvé la solution. La solution, c'est on va faire du chêne centenaire. Donc on récolte une fois par siècle, ça va quand même pas nous tuer. Mais surtout, un chêne centenaire, ça rapporte beaucoup plus que trois chênes centenaires. Il faut simplement avoir le temps d'avancer. Et en fait, ça marche tellement bien. Et la révolution, évidemment, les États ont décidé de les forêts. Et continuer avec les idées de la même manière. Je pense qu'il n'y avait pas de ces deux États. Parce que ça permet d'avoir des espèces rares. On a par exemple un continuer de visiter le cigogne noir en France. Le cigogne noir déteste les humains. Et au milieu de la forêt, vous êtes à plus de 2 km de la première route. Et donc il n'y a jamais personne qui va les traverser. Et comme le MF est un peu plus dense, ils ont installé des clôtures pour pas que ça retourne. Donc tout au milieu d'une éducation. Même eux ne s'autorisent pas à y aller. Et voilà, ça a des avantages dans le développement durable de laisser pousser la forêt. Alors de temps en temps on est là, et évidemment on a tout le temps qu'il faut pour faire ce qu'on veut.
Mais
petit arbre, on a 60 laitières à peu près. Les moines reçoivent le lait, on n'a pas envoyé le produit de vache. Il faut qu'on n'a pas du mal que les moines urbains. Alors, les moines urbains, ils peuvent faire la vie, la production, là où le personnage est, la vache réelle.
Vraiment très content de la vie. Et une fois que vous avez capté les choses, ce qui prend bien, tôt, vous allez essayer.
Par exemple, il y en a un qui est suivi pendant que je travaille à l'ordinateur. Je vais le voir.
Je suis lancé au travail, mais alors de là, ça doit payer pour lui de travail. Donc, ça va être plus rapide.
Va remonter, et simplement on va remonter en silence parce qu'on va diminuer l'ingénierie.
Thank you.